faith. Cynics that see that the children are cursed, cursed to believe.
7h en temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Clotilde Dumay.
Et le journal international, c'est avec vous, Pierre Boudias. À la une, 40 ans après, l'Ukraine se souvient.
Le 26 avril 1986, la centrale ukrainienne de Tchernobyl connaissait une défaillance et expulsait un nuage radioactif qui allait recouvrir l'Europe. Un anniversaire commémoré dans un contexte bien sûr particulier après 4 ans de guerre face à la Russie. Nous serons à Kiev dans un instant. Donald Trump évacué par ses services de sécurité en plein dîner mondain. Scène surréaliste la nuit dernière à Washington. Un tireur a tenté de pénétrer dans la salle où se tenait le dîner des correspondants de la Maison Blanche. Tous les détails dans ce journal. La Syrie, nouveau débouché du pétrole irakien. Face au blocus du détroit d'Ormuz, Bagdad se tourne vers Damas pour exporter son précieux or noir. Reportage dans la raffinerie de Banias au cœur de l'accord entre les deux capitales. À suivre également, la ville soudanaise d'El Fasher sous la menace d'un nettoyage ethnique 6 mois après la prise par les paramilitaires. Et l'urgence sociale en toile de fond d'un scrutin local très attendu dans l'est de l'Inde.
Son nom reste associé au danger du nucléaire civil.
La centrale de Tchernobyl dans le nord de l'Ukraine qui connaissait il y a tout juste 40 ans une défaillance majeure. Dans la nuit du 26 avril 1986, le réacteur 4 était victime d'une explosion déclenchant la plus grave crise qu'ait jamais connue l'atome à usage civil. 4 décennies plus tard, l'Ukraine commémore ce drame qui avait poussé des milliers d'habitants à l'exil et provoqué jusqu'à 40 000 morts selon certains rapports. Une journée de souvenir dans un contexte forcément particulier après 4 ans de guerre. Emmanuel Chazon, vous retrouve en Ukraine. Emmanuel, comment le pays marque-t-il ce triste anniversaire ?
Alors, en raison de la guerre, aucune cérémonie majeure va être annoncée. En revanche, près de la centrale à Slavoutitch, où nombre de travailleurs actuels de la centrale ainsi que des liquidateurs de l'époque étaient logés, il y a eu une nuit de veille, puisqu'il y a 40 ans, l'explosion a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 avril. Ici en Ukraine, la mémoire de Tchernobyl est vive. La catastrophe a impacté nombre de familles. Environ 350 000 personnes ont été évacuées de la zone en phase successive et 600 000 personnes venues de tout l'URSS ont ensuite été dépêchés sur place pour décontaminer la zone. Une mémoire qui est d'autant plus vive que l'accident et la réponse soviétique de rester dans le secret, de ne pas informer la population des risques encourus avec les radiations, a contribué au renouveau du nationalisme ukrainien. Et cette centrale, présentée à l'époque comme un fleuron du parc nucléaire soviétique, est aussi vue comme un objet de domination, de colonisation russe en Ukraine.
Et on le disait, Emmanuel, ce jour de commémoration a lieu alors que la guerre, elle, se poursuit.
Oui, avec des frappes russes quotidiennes et les sites nucléaires ukrainiens ne sont pas épargnés. N'oublions pas qu'en février et en mars 2022, la centrale de Tchernobyl a été occupée pendant 5 semaines par les Russes au mépris de la sécurité nucléaire. Et en février 2025, il y a aussi eu une frappe de drone russe sur le sarcophage du réacteur numéro 4. Enfin, aujourd'hui, cela fait plus de 4 ans que la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporijjia se trouve sur la ligne de front et sous occupation russe. Les pannes d'électricité fréquente sur place font craindre qu'à tout moment, un nouvel incident nucléaire pourrait se produire.
Emmanuel Chasse, correspondante de RFI en Ukraine, merci à vous. Et à la veille de cette date anniversaire, l'Union européenne a appelé hier la Russie à cesser ses attaques contre les sites nucléaires en Ukraine.
Des invités en costume et robe de soirée en panique, plusieurs coups de feu entendus et un président américain évacué en urgence.
C'est le résumé succinct de la soirée chaotique qu'a vécu hier l'hôtel Hilton de Washington. L'établissement accueillait le traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche, une cérémonie lors de laquelle était bien présent Donald Trump, une première en deux mandats, mais l'événement a failli tourner au drame après qu'un homme armé ait tenté de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Gwendal Lavina, il était à 20h30 heure locale lorsque la situation a basculé.
La soirée a commencé il y a 30 minutes à peine lorsque plusieurs détonations sont entendues à proximité de la salle où a lieu le gala. Les membres du Secret Service sautent alors sur scène en courant avec leurs armes pointées vers la salle. Ils forment immédiatement une bulle humaine autour de Donald Trump, de la première dame ainsi que de J.D. Vance, le vice-président américain. Tous sont rapidement évacués vers une salle sécurisée dans l'hôtel. Au même moment, les membres du Secret Service crient « shots fired », coups de feu tirés et « stay down », restez baissés à destination des nombreux journalistes journalistes et invités installés autour de dizaines de tables. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, 2 heures après, le président en smoking a donné quelques informations sur le déroulé des événements.
Un homme a forcé un contrôle de sécurité avec plusieurs armes. Des membres courageux du Secret Service l'ont rapidement interpellé. Je pense que c'est un loup solitaire, un dingue.
These are crazy people. Âgé de 31 ans, il serait originaire de Californie et avait de nombreuses armes à feu en sa possession, selon le président. Un agent du Secret Service a été touché par un tir, mais son gilet pare-balles l'a protégé, a indiqué Donald Trump, qu'il a eu au téléphone. Gwendal Lavina, New York. RFI.
Le président américain qui avait décidé quelques heures plus tôt de ne pas envoyer de délégation au Pakistan, pourtant attendu dans la journée de samedi, les émissaires spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner n'ont finalement jamais décollé pour Islamabad. La deuxième session de pourparlers avec l'Iran continue de se faire attendre dans la capitale pakistanaise. Parti de la métropole dès hier soir, le ministre des Affaires étrangères iranien devrait y revenir aujourd'hui après un court déplacement à Oman. Dans ce contexte, les gardiens de la révolution l'assurent, leur contrôle sur le détroit d'Ormuz va s'inscrire dans la durée, une stratégie définitive et dissuasive face à Washington et ses alliés, écrit l'armée idéologique iranienne dans un communiqué. Et face à un blocus qui ne se relâche pas, les pays du Golfe cherchent donc de nouveaux débouchés pour leur pétrole. L'Irak choisit ainsi de miser sur la Syrie et sur la raffinerie de Banias sur la côte méditerranéenne. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de brut devraient y transiter jusqu'au mois de juin à destination, entre autres, de l'Europe. Manon Chaplin, notre reporter, s'est rendu sur place.
Sur la route qui mène à la raffinerie de Banias, des centaines de camions-citernes garés sur le bas-côté.
Et c'est comme ça sur 30 km.
Ahmad arrive de Mossoul, 17 jours de voyage, après, dit-il, avoir été empêché de travailler.
À cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, on a subi beaucoup de pertes. Ça faisait 6 ou 7 semaines qu'on était bloqués chez nous, au chômage technique, sans pouvoir travailler. Dieu merci, cette route avec la Syrie a ouvert.
L'accord est essentiel pour Bagdad, dont l'économie dépend à 90% de ses exportations pétrolières. Il rouvre un itinéraire à l'arrêt depuis plus de 20 ans, les derniers flux de pétrole irakien via la Syrie remontent au début des années 2000. Au poste frontière, l'afflux est tel que les camions n'avancent pas, explique Issa.
Il y a beaucoup d'embouteillages, beaucoup d'attentes. On est resté bloqué 14 jours côté irakien, sur l'asphalte brûlant et sous la chaleur. Là-bas, c'est le désert. Puis, nous avons dû avancer en convoi jusqu'ici, sur des routes qui montent et qui descendent. C'était très compliqué, très dangereux.
Face à ce flot soudain, rien en Syrie n'est aménagé, le trafic est presque figé. Voilà 3 jours que ces 2 chauffeurs n'ont pas bougé.
Ce qu'on veut, c'est simplement des places pour se garer, un endroit pour cuisiner et dormir. Avec le bruit de la route, on ne peut pas fermer l'œil. On attend au milieu du trafic. Il y a quelques jours, un collègue qui traversait s'est fait renverser par une voiture. C'est vraiment dangereux.
Un premier pétrolier a quitté le terminal de Banias mi-avril. De nouveaux départs devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Manon Chaplin à Banias, RFI.
Et à noter que sur l'autre front qui agite toujours le Moyen-Orient, au Liban, la trêve apparaît plus que jamais fragilisée. 2 jours après la prolongation du cessez-le-feu pour 3 semaines, le premier ministre israélien annonce avoir ordonné à son armée de frapper avec force le Hezbollah. Benjamin Netanyahou accuse la milice chiite de violation de la trêve en cours.
RFI, il est 9h08 à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, qui tombait il y a 6 mois, jour pour jour, aux mains des paramilitaires du général Emeti.
Si la prise de la ville a marqué un tournant stratégique, elle est surtout devenue un symbole du martyr vécu par les populations civiles soudanaises dans le conflit qui ensanglante le pays depuis maintenant 4 ans. Exécutions sommaires, viols, tortures. L'ONU a d'ailleurs évoqué des actes de génocide à ce jour. On ne connaît toujours pas le bilan humain de la prise d'El Fasher, la ville étant toujours aux mains des forces de soutien rapide. Les détails avec Alexandra Bonjon.
En 6 mois, seuls quelques ONG et une mission d'évaluation des Nations Unies ont eu accès à El Fasher. Une visite encadrée par les forces paramilitaires. Tous décrivent la même chose, une ville détruite, quasiment vide, une ville fantôme. Selon les paramilitaires, 30 000 personnes seraient revenues s'installer à El Fasher, un chiffre remis en cause par la société civile. Les habitants ont peur de rentrer, peur d'être pris en otage, affirme Altair Hashim du Darfour Emergency Committee.
Tous nous décrivent une ville vide, avec très peu d'habitants. L'accès à certains quartiers est interdit. Peut-être que les FSR ont des choses à cacher. Ceux à qui nous avons parlé nous disent également que les commandants FSR se sont installés dans la ville, notamment dans le quartier d'Arajaoula. Ils occupent les maisons avec leurs familles et ont fait venir des gens de tribus arabes du Darfour.
Des accusations qui reviennent régulièrement pour cet ancien habitant d'El Fasher qui vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés au Soudan du Sud. Les paramilitaires issus des tribus arabes cherchent à remplacer les communautés Zagawa et Massalit de la ville.
Ils ont fait venir des gens d'ailleurs, d'autres pays, des gens des tribus arabes et ils les ont installés dans nos maisons. Ils disent qu'El Fasher est sécurisé et que nous pouvons revenir, mais ce n'est pas vrai.
Selon une source humaine.
À nous le bruit
et ses effractions en série,
son sous-sol,
ses clés d'acier
et ses clés de sol.
À nous le bruit,
à nous le bruit
et ses effractions en série.
Jette-moi 8 mesures, assouillé comme 8 murs, assailli d'enflure sur des airs de raclure, au programme du sulfure pur sur quelques figures qui reniflent à 4 pattes la moindre de mes ratures. Un œil de rade-bouche d'où je fais le point effet mouche, une seule cartouche et à la fin de l'envoi je touche. Régale-toi catin, j'ai la rancune comme une enclume et préfère de loin le kilo de plomb au kilo de plume.
De quoi les stupes se mêlent si je fais de la musique comme du narcotrafic, parce que traqué jusqu'à la race depuis que j'ai eu le malheur de laisser l'empreinte de ma crasse sur les sons qui descendent des câbles, impitent une basse funky. Et me voici en terrain conquis, admire un peu comment nos détracteurs bouffonnent au premier coup de feu. On nous écoute dans le doute, c'est ça la rumeur. Amuse-toi à lui barrer la route, je vois des gouttes de sueur.
À nous le bruit et ses effractions en série,
son sous-sol,
ses clés d'acier
et ses clés de sol.
À nous le bruit,
à nous le bruit
et ses effractions en série.
À nous le bruit
et ses effractions en série,
son sous-sol,
ses clés d'acier
et ses clés de sol.
À nous le bruit,
à nous le bruit
et ses effractions en série.
Attaque sourde, attaque fourbe, arme lourde tout autour de moi et à la taille de la mitraille en détail. En cela, je place syllabes et phrases pour armes, pour mettre en victuaille les vendus sur la paille. Harassé, affamé, affalé à l'usure de cette prod, épuise les chiffres des combinaisons de ton code. Quant au sol,
autre question,
je viens récupérer les murs, le paille et le sol.
Issu des circuits clandestins et de quelques milieux opaques, parfumé au nitrate, obstiné devant l'obstacle. Enfant de l'asphalte, dont on écoute que les déflagrations, te fait la guerre sans aucune déclaration. Toujours debout malgré les coups, trou de balle. Quand le tout répressif choisit ses plus belles balles, je suis cette peur ancestrale dans leur jeu carcéral. Furieux dans la diaspora, et que comprenne qui pourra.
À nous le bruit
et ses effractions en série,
son sous-sol,
ses clés d'acier
et ses clés de sol.
À nous le bruit,
à nous le bruit
et ses effractions en série.
À nous le bruit
et ses effractions en série,
son sous-sol,
ses clés d'acier
et ses clés de sol.
À nous le bruit,
à nous le bruit
et ses effractions en série.
incroyable qu'aujourd'hui tout le monde écoute la radio et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de luttes, de gens militants qui à un moment donné ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.